Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Bonsoir.
Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité.
On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
Nous sommes une idée. Nous sommes Anonymous.
Non, pardon, j'avais les oreilles qui traînaient dans le couloir.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Salut les copains. Moi j'adore écouter des clics et des claques sur Europe 1.
Europe 1. 20h, 21h.
Des clics et des claques.
Guy Birenbaum, David Abiker.
Et bienvenue dans Des clics et des claques, l'émission qui trouve sur internet ce que vous n'avez pas le temps d'y chercher. Bonsoir à tous et salut à toi Guy Birenbaum.
Bonsoir à toutes et à tous.
C'est officiel depuis quelques jours, la gendarmerie nationale se met à tweeter et vient d'ouvrir son compte Twitter donc, alors que s'ouvre demain à Lille le forum international de la cybersécurité. Alors on savait que les gendarmes étaient équipés de radars, de radios, de talkie-walkie, de sifflets, hein, le sifflet du gendarme, et même de pages Facebook, mais voilà donc que la marée chaussée, comme on disait autrefois, va se mettre à Twitter. Alors que feront les voleurs pendant que les gendarmes gazouillent? Réponse dans un instant, avec des experts de très haut niveau,
très
n'est-ce
haut,
pas Guy?
Très, très,
on
voilà,
peut dire
je
ça.
Suis très impressionné.
Vers 20h30, si vous avez passé la journée à éviter les radars, Romain de Salle de Time to Sign Off, la newsletter, débarque avec son info qui claque. Et peu avant 21h, Agnès Léglise offrira son cadeau à notre invité. Il est écrivain, il aime les faits divers et en faire des romans. Il s'est emparé du plus gros buzz mondial sur Internet qu'ait pu déclencher un homme politique français. Ça lui vaut déjà d'être poursuivi par Dominique Strauss-Kahn. Notre invité est Régis Geoffrey.
Des clics et des claques
sur Europe 1.
Bonsoir Régis Geoffrey.
Bonsoir.
On vous invite pour ce roman que vous venez de publier, largement inspiré de l'affaire Strauss-Kahn, même si vous ne le citez pas dans ce roman. On y reviendra tout à l'heure. Mais notre première question, c'est que faisiez-vous sur cette sextape que nous avons trouvée aujourd'hui sur YouTube, qui vous représente avec une femme sur les genoux, bronzée dans les années 80.
86 exactement.
En train d'essayer de lui enlever ses vêtements, sans trop la forcer, sans la violenter, mais
hein, on n'est
pas,
c'est,
on est pas
c'est
dans
Agnès
une affaire.
L'Église qui
c'est
nous a trouvé
c'est
ça.
Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, Régis Geoffrey?
Ben, vous savez, c'est quelque chose de très culturel. C'est Gérard Courant qui faisait ce genre de portrait. Ça s'appelle Les Cinématons. Il a une sorte d'encyclopédie de beaucoup de gens, dont Godard, dont tous les gens les plus célèbres, qui n'étaient pas mon cas à l'époque.
Tous en train de dépiauter des jolies filles.
Non, soit seul. C'est la plupart des Cinématons, soit en couple. Et donc moi c'est en couple, je sais pas votre cas, mais moi j'ai été très jeune à une époque.
Moi je suis en couple avec Guy Birenbaum,
voilà,
je suis
voilà,
très
c'est
vieux.
Cela, et oui, voilà. C'est une sextape, comme vous dites, habillée, qui à ouais. l'époque ne choquait personne, parce qu'on est à une époque qui est beaucoup plus pudibonde.
Il y a des seins, il y a des seins quand même.
Et donc la personne avec qui j'étais, c'est la mère de mes enfants, à qui j'ai demandé récemment si ça l'a choqué, elle m'a dit que non, et quant à moi non plus, parce que quand on est un être qui vient du plus profond, des années 50 au niveau de sa naissance, eh bien on n'est pas choqué pour autant.
Eh ben on sera pas choqué, même si vous tirez sur un string dans cette vidéo, mais comme c'est celui de la mère de vos enfants, on vous en tiendra pas à rigueur, Régis Geoffrey. Si vous n'étiez pas sur Internet aujourd'hui, le buzz du jour, ça n'a rien à voir. Ça va vous passionner, ça peut peut-être même inspirer une nouvelle ou un prochain roman. Un élu de la République qui s'énerve dans la rue, à Montreuil, et dont la vidéo, Guy, la vidéo de la colère, fuite sur Internet.
Oui, et puis elle a dépassé les 90 000 vues à l'heure où on se parle, je pense. Alors il s'appelle Razi Hamadi, il est député PS de Seine-Saint-Denis, il est candidat au municipal à Montreuil. Et depuis 24 heures, effectivement, une vidéo de lui tourne sur Internet, postée depuis le 27 décembre sur YouTube. On l'y voit en sweatshirt et en jean, et il crie face à des gens avec qui
on ouvre les guillemets là.
Il a une altercation et j'ouvre les guillemets. L'affaire est terminée, enculé de Taras, fils de pute. Va, je
on s'arrête là, on n'en dit pas plus. Hein.
Alors après, c'est expliqué sur sa page Facebook. Razi Hamadi est venu à la télévision à midi sur Canal+ pour expliquer le caractère hors contexte de cette vidéo extraite d'une scène qui s'est déroulée il y a plusieurs mois où il aurait été physiquement agressé, lui, avec sa compagne et en compagnie de deux amis. Et il ajoute « J'étais hors de moi, les termes on les regrette, mais à ce moment-là, je suis un homme comme les autres. Ses opposants ne lui font aucun cadeau sur Internet et même certains, notamment au Front National, réclament carrément sa démission du Parti Socialiste. »
Alors c'est un peu compliqué hein, d'être un homme comme les autres désormais quand on est surtout un homme politique. On n'a plus de vie privée et on risque de se retrouver filmé et sur Internet, même des mois plus tard, parce que cette vidéo est arrivée des mois plus tard. Régis Geoffrey, vous qui avez été filmé et mis sur Internet
sciemment.
Mais sciemment et pas à l'insu de votre plein gré.
Oui, tout à fait sciemment, parce que je connaissais l'existence, j'aurais pu demander à Gérard Courant de l'enlever. vrai, je l'ai pas fait.
Non, 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 mais est-ce que
je savais pas que ça vous intéressait autant. Autrement, je l'aurais tweeté moi-même.
Ben non, mais on l'a fait nous. On l'a fait à votre place, puisque Agnès L'Église, dont vous ferez la connaissance tout à l'heure, a eu la bonne idée de la trouver et de la balancer sur Internet.
Puisque c'était si extraordinaire.
Mais justement, c'est cette histoire de vidéo d'un homme politique qui se retrouve comme ça, filmé, cette vulnérabilité des politiques dans leur vie privée et qui se retrouve sur Internet, ça pourrait vous inspirer un roman.
Ça m'inspire un roman, c'est que je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie. Alors, je parle pas de cette insulte particulièrement, mais toute cette hypocrisie et ce temps passé, quand il y avait cet entraîneur de foot qui avait dit que les femmes retournent à leur casserole, on a parlé pendant une semaine. Alors, soit c'était au deuxième degré, soit ça l'était pas. Dans le cas où c'était pas au deuxième degré, ça, le ridicule se suffisait à soi-même. Il y a une hypocrisie parce que bientôt quelqu'un dira putain, on dira mon Dieu, vous avez, on dira con, mais alors on dira oui, mais ça remonte au sexe de la femme, c'est sexiste, c'est pas vrai. Ces gens qui critiquent, en fait, dans le privé, les insultes fusent et c'est tout à fait normal et tout à fait sain. Maintenant, on peut changer d'excuse. D'insulte, pardon.
On peut peut-être, si les gens disent des gros mots sur les réseaux sociaux, on appellera les gendarmes parce que figurez-vous.
Voilà,
ça me fait une transition.
Magnifique.
Les gendarmes débarquent sur Twitter alors que s'ouvrent demain les assises de la cybercriminalité. Faites attention à ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
Guy Birenbaum, David Abiker.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Rappelle quelque chose peut-être.
Ah ben non, c'est à toi que ça rappelle des souvenirs.
C'est le gendarme de Saint-Tropez.
Eh oui, c'est la bande originale du gendarme de Saint-Tropez. Les gendarmes qui débarquent sur Twitter alors que s'ouvrent demain les assises de la criminalité. Mais Guy, que vont-ils faire sur Twitter?
Oui, les assises de la cybersécurité à Lille. Alors, c'est officiel depuis quelques jours, on le savait, la gendarmerie nationale se met à Twitter et à tweeter. Et elle vient donc d'ouvrir ce compte alors que s'ouvre demain à Lille le forum international de la cybersécurité. À quoi va servir cette présence de la gendarmerie sur Twitter? Écouter les plaintes de la population, leur répondre, tweeter des consignes de sécurité, signaler des accidents ou des radars, ben on va se demander tout ça.
Et pour en parler avec nous, des gendarmes, en tout cas un gendarme et pas n'importe lequel, et puis des spécialistes de Twitter et de l'usage, et puis des questions de cybercriminalité et de sécurité sur Internet. D'abord, le lieutenant-colonel Gwendal Durand. Bonsoir mon colonel.
Bonsoir.
Vous êtes chef du bureau média du service d'information de la gendarmerie. Jean-Jacques Urvois, c'est avec nous. Vous êtes député PS où vous avez été jusqu'en 2012 en charge des questions de sécurité. Et aujourd'hui, vous êtes président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous, Jean-Jacques Urvois.
Bonsoir.
Et puis Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité. Vous serez demain, Nicolas, mais ce soir vous êtes sur Europe 1 dans des clics et des claques. Vous serez demain à Lille et vous nous direz pourquoi c'est un rendez-vous important que ce forum de la cybersécurité lillois. Mais je commence tout de suite avec vous, mon lieutenant. Je vais vous appeler mon lieutenant. Dites-nous tout. Que va faire la gendarmerie dans cette galère des réseaux sociaux? Vous ferez quoi une fois sur Twitter concrètement, vous les gendarmes?
Alors en fait, l'ouverture du compte Twitter Gendarmerie vient compléter notre démarche numérique déjà engagée, puisque la gendarmerie est présente sur Facebook depuis 2010. Depuis plusieurs mois, nous avons aussi ouvert des comptes au niveau des départements, puisque 24 groupements de gendarmerie départementale disposent d'une page Facebook pour donner des conseils de prévention sur le plan local. Donc on est vraiment dans un complément. Sur Twitter, notre compte sera orienté sur de l'actualité opérationnelle. Nous voulons relayer de l'information concrète, utile à tous, sur notre actualité opérationnelle, en lien direct avec des événements. Diffuser également des messages de prévention sur des phénomènes émergents. On peut penser des conseils sur la lutte contre les cambriolages, sur comment sécuriser un achat sur Internet, des conseils de prévention en matière de cybersécurité, puisque c'est également le thème du forum international sur la sécurité qui s'ouvre demain à Lille. Des informations directement utiles à la population en cas d'événements perturbateurs. Vous rappeliez, vous évoquiez des accidents de la circulation. Ça peut être des manifestations, des événements perturbateurs ou lors de crise, c'était le cas notamment dans le Var ce week-end.
Mon colonel, est-ce que le bilan de Facebook était donc plutôt positif pour que vous vous disiez tiens, on était dans une berline Facebook, on va prendre une Ferrari, on va aller sur Twitter?
Mais en fait, ça complète le rythme des deux réseaux n'étant pas le même. En fait, on a un compte national qui a une très belle audience puisque nous avons 72 000 membres dans la communauté. Les articles que nous publions atteignent en moyenne 80 000 vues par page. Donc on avait une vraie audience. On a vu que nos comptes de groupement sont également très suivis. Les 24 comptes ouverts sont, ont trouvé leur public également. Les gens viennent y chercher de l'information concrète et utile. Voilà, là, c'est l'occasion maintenant de passer une étape supplémentaire et de donner en temps direct, en instantané, le plus rapidement possible, cette information directement pour la population.
Mais justement, lieutenant-colonel Durand, comment ça s'organise? Qui tient le compte? Qui va valider un tweet, qu'un tweet passe ou pas? Ça va pas remonter jusqu'au ministre. Donc comment ça se passe pratiquement? Qui est derrière?
Alors nous sommes organisés au sein de la direction de la gendarmerie avec une cellule Twitter qui a été créée au CIRPA gendarmerie, donc le service d'information, et nous avons mis en place un circuit de validation très très court également pour être justement dans la réactivité et dans le temps du...
Il y a combien de personnes dans cette cellule sans révéler de secret défense?
Alors c'est 3 personnes à plein temps.
D'accord.
Et puis qui s'appuient sur un réseau de correspondants au sein de la direction, ce qui lui permet d'être informé en temps direct, puisque la force de notre direction, c'est d'être à la fois une administration centrale, mais surtout un état-major opérationnel qui est capable de conduire des opérations sur le plan national, donc qui sert également qui recueille quasiment en temps direct tout ce qui se passe sur le territoire national dans l'activité des gendarmes.
Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois, ancien spécialiste de la sécurité du Parti Socialiste. Vous vous rendez compte, vous entendez un colonel de gendarmerie, c'est la grande muette, le temps a passé, il n'y a plus de grande muette, c'est fini. Ça vous dit quoi, la gendarmerie, sur Twitter quand
D'abord,
même
je lui souhaite bonne chance, parce qu'il y a un compte dans le domaine de la sécurité qui fait référence, c'est celui de la police espagnole. Il est ouvert depuis 5 ans, il a 710 000 abonnés. Alors, j'ai regardé tout à l'heure le compte qui n'est pas encore ouvert, ou à peine, de la gendarmerie, ils sont à 2200, mais celui de la police qui a été ouvert en décembre 2012, on était à 7400. Donc, il y a des marges de progression. Mais je crois que justement, ce qui fait le succès du compte de la police espagnole, c'est d'abord qu'il y a une douzaine de personnes qui sont attachées à temps plein, et surtout qu'il y a de l'interactivité. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de donner des informations, ils en récupèrent aussi, et j'ai même lu que 300 trafiquants de drogue avaient été attrapés parce qu'il y avait eu des informations données par le compte Twitter de la police nationale espagnole.
On va revenir sur cette efficacité de la présence policière et de la gendarmerie sur les réseaux sociaux. Les gendarmes, donc, qui se mettent à siffler, mais sur Twitter, pourquoi faire et pour dire quoi? Réponse dans un instant.
Clic et des claques.
Sur Europe 1.
Ça va, Cruchot?
Oui, chef. Retour dans des clics et des claques sur Europe 1, où nous essayons de comprendre très sérieusement pourquoi la gendarmerie arrive officiellement sur Twitter, chef Birenbaum.
Nicolas Arpagian, la préfecture de police est sur Twitter, les armées sont sur Twitter, il manquait plus que les gendarmes finalement. Ça signifie quoi pour vous qui êtes un spécialiste de cybersécurité?
Alors déjà, c'est le fait de pouvoir prendre la parole sans que d'autres prennent la parole à leur place. C'est-à-dire effectivement, c'est déjà d'occuper un terrain, faire en sorte que lorsqu'on écrit spontanément gendarmerie, bah effectivement, on va tomber sur la gendarmerie nationale française. C'est plutôt une bonne chose. C'est effectivement, comme l'a dit le lieutenant-colonel Durand, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur un autre média et sur un autre temps. Simplement, il va falloir apprendre à se l'approprier, savoir comment est-ce qu'on va gérer une politique de retweet également, savoir qu'est-ce qui...
Comment on va réexpédier certains tweets aux autres abonnés.
Voilà, exactement, de manière à établir une ligne éditoriale, et donc effectivement c'est tout à fait salutaire, et d'autant plus qu'on s'aperçoit que la communauté des gendarmes en général est tout à fait branchée technologie. On voit beaucoup de forums, de débats, ce sont des gens qui participent, donc c'est la grande muette certes, mais elle est dans son temps, donc il est assez logique qu'elle se saisisse de cette technologie. Par contre, effectivement, c'est vrai que il va falloir penser aux réponses et faire en sorte que à chaque fois d'avoir une vraie réflexion sur comment on peut répondre sur le fond tout en étant réactif. C'est un vrai défi, mais elle est capable de le surmonter.
Mon colonel, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en ligne avec nous. C'est vous qui avez la responsabilité du compte Twitter des gendarmes. Et là, c'est un breaking news. On va peut-être en faire dépêche.
Un scoop.
AFP. Ce scoop, c'est que Nikos Aliagas vient de m'envoyer un SMS pour dire qu'il soutenait le compte de la gendarmerie nationale parce que c'est un bon citoyen, même malgré sa gréquitude, et il vient de faire de la publicité sur Twitter au compte de la gendarmerie. Ça n'était pas ma question, mon colonel, mais ça va vous mettre du baume au galon. Est-ce qu'on vous a donné des objectifs sur Twitter? Quels sont vos objectifs de l'année?
Alors, il n'y a pas d'objectif chiffré dans le sens où on pourrait l'entendre. L'objectif, c'est vraiment de rapprocher les gendarmes des citoyens, d'avoir un compte utile, intéressant. Nous ne sommes pas là par effet de mode, nous ne sommes pas là pour occuper un espace, nous sommes vraiment là pour... pour donner de l'information concrète et très utile et en temps direct à la population. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de trouver notre public, d'être suivi, d'y publier des choses intéressantes, d'être dans l'interactivité, dans le partage, donc dans le ton du réseau social, en fait, et d'y trouver notre place, à notre juste niveau, en fait, et d'avoir un compte utile sur les domaines de la sécurité, sur les thématiques qui nous concernent tous dans notre quotidien.
Guy, Jean-Jacques Urvoas, monsieur le président de la Commission des lois, on voit bien que les personnalités tweetent, vous en faites partie, que parfois elles ne peuvent pas s'en empêcher, que ça devient addictif, mais une institution doit-elle forcément tweeter, surtout quand elle représente un pouvoir régalien avec toutes les difficultés que ça peut représenter?
Moi je crois que oui, d'ailleurs vous donnez deux informations en même temps sur lesquelles il faut insister. C'est le Twitter d'une institution, c'est pas le tweet ni du général Favier qui dirige la gendarmerie, ni de Manuel Valls qui la commande par autorité. C'est le tweet d'une institution. Ensuite, ça contribuera nécessairement à faire de la bonne police au sens générique du terme, c'est-à-dire de bâtir une relation de confiance avec la population. On sait que la police et la gendarmerie sont efficaces quand justement ils se sentent compris et entendus par la population. Si ça peut y contribuer, alors c'est un bon outil.
Mais quand même, la gendarmerie, ils ont toujours eu la cote. Je veux dire, les motards, le bel uniforme, le fait qu'ils soient militaires dans leur ADN, ils ont plus la cote que les policiers.
Moi, ça,
vous confirmez?
Ils ont moins la cote que les pompiers.
C'est Geoffrey qui précise que les pompiers ont plus la cote.
Je ne suis pas sûr qu'on ait des éléments suffisamment objectifs pour affirmer.
Il n'y a pas d'enquête.
Il y a un sondage qui est publié par l'essor de la gendarmerie.
Qui est publié par l'essor de la gendarmerie.
C'est pas très objectif.
Bien sûr, mais qui existe, enfin fait par un institut de sondage. Mais c'est vrai que en tout cas, on est bien dans la notion de service. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est une force nationale, mais c'est aussi avec un fort ancrage local. Et c'est vrai que ça devrait permettre également de pouvoir rendre des services. Et donc, là aussi, ajouter encore en efficacité auprès de l'institution.
Eh bien, nous, on est comme Nico Saliagas. On aime la tactique du gendarme sur Twitter. Vous restez avec nous. Demain, s'ouvre à Lille les assises de la cybersécurité. On va tenter d'en comprendre les grands enjeux. On vous explique tout dans un instant.
Comme.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Guy Birenbaum, David Abiker.
Cruchot, c'est moi, la gendarmerie. La gendarmerie revient. La gendarmerie, quand on en parle, ça met les gens de bonne humeur. C'est incroyable.
Enfin, les radars ne mettent pas tout le monde de bonne humeur, David Abiker.
Il n'y a qu'à ralentir. La gendarmerie est à l'honneur ce soir dans Des clics et des claques sur Europe 1 parce qu'elle vient siffler sur Twitter au moment où s'ouvrent demain à Lille les assises de la cybersécurité. On se demande avec nos invités quel intérêt pour les forces de sécurité de sortir du bois sur les réseaux sociaux. Guy.
Jean-Jacques Urvoas, hier Manuel Valls était sur Europe 1. Il a insisté sur l'importance de la surveillance d'Internet en matière de terrorisme mais aussi concernant les propos racistes. Alors la cybersécurité devient essentielle, c'est un enjeu gouvernemental, et encore on n'a pas parlé des trafics, des contrefaçons qui s'organisent via Internet. Est-ce que cet enjeu est bien pris en compte désormais par les politiques?
Pas suffisamment, en tout cas dans le domaine de la sécurité on est encore très balbutiant, d'abord parce que nos structures sont éclatées, à peu près tout le monde s'intéresse à la cybersécurité, en réalité du coup pas vraiment de spécialistes. Je crois d'ailleurs que le ministre demain, quand il va par sa présence manifester son intérêt, pourrait évoquer la manière dont on pourrait organiser cela un peu mieux, parce qu'on voit bien que c'est pour nous un espace, quand je dis nous c'est l'État, c'est un espace aujourd'hui trop méconnu, et y compris juridiquement nous n'avons pas encore les moyens de mener les investigations que nous aimerions faire.
Qu'est-ce que vous voulez dire précisément quand vous dites juridiquement? Vous voulez dire tout simplement qu'on ne peut pas poursuivre?
On ne peut pas poursuivre parce que le droit va toujours beaucoup moins vite que la technologie.
Et donc vous seriez partisan d'une application du droit même sur des réseaux qui sont des réseaux américains par
quand
exemple?
Quand je vois que des délinquants utilisent ces outils, je ne vois pas pourquoi les forces de sécurité ne pourraient pas y accéder.
Nicolas Arpagian, vous le spécialiste de cybersécurité, vous serez demain aux Assises de Lille. Quelle va en être la tonalité? Qu'est-ce qui va s'y dire alors que le gouvernement a déclaré ce week-end la guerre aux cyberracistes, aux cybercriminels? Il l'a réaffirmé ce week-end, il le dit depuis des semaines. Qu'est-ce qui va se dire demain?
Alors déjà c'est l'occasion effectivement de présenter la stratégie et faire en sorte que d'avoir qu'il y a une conviction, qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'Internet soit une terre de non-droit. La seule chose, c'est que la France, l'Europe en particulier, est en position de faiblesse parce qu'elle ne dispose pas du tissu économique. Tous ces acteurs, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est LinkedIn, ce sont des acteurs essentiellement américains en l'espèce, US, mais qui peuvent effectivement, on prenait l'exemple du droit pour les États-Unis par exemple considèrent que tous les sites en .com, les adresses en .com, c'est le territoire américain. Ça veut dire que le FBI, l'équivalent de notre gendarmerie, toute proportion gardée, bah, peut agir sans avoir à subir les effets des sauts de frontières et des droits juxtaposés. Donc effectivement, on va s'apercevoir que l'Europe doit passer de son stade de consommateur de technologie, d'objet de droit, parce que il s'avère que nous donnons nos données à ces acteurs, nous sommes un peu contraints d'accepter leurs conditions générales d'utilisation sans pouvoir les négocier, à devenir sujet de droit.
C'est-à-dire dire qu'elles sont illisibles à chaque fois.
Oui, mais justement, c'est-à-dire que lorsque Barack Obama dit « je vais m'expliquer avec chacune des 28 chancelleries sur la politique de surveillance américaine », il voit bien que effectivement, il n'y a pas d'entité européenne, il n'y a pas, on n'est pas crédible. C'est-à-dire qu'on n'est même pas pris au sérieux, même avec ce qui nous caractérise, le fait qu'on soit solvable. On est des clients et même les Américains ne nous prennent pas au sérieux. Il est temps que les pouvoirs publics, justement, affirment une politique concrète dans ce domaine.
Guy, lieutenant-colonel Gwendal Durand, revient à vous et à ce compte des gendarmes et de la gendarmerie. Alors, on a parlé là des gendarmes en képi sur Twitter, puisque finalement, ce sera un compte officiel. Mais en vérité, la gendarmerie, allez, dites-moi la vérité, elle surveille déjà en civil ou en secret. Par exemple, quand des gens se filment en excès de vitesse sur YouTube, vous êtes assez prompt à savoir les récupérer grâce à leurs vidéos.
Alors, le compte Twitter sera effectivement très différent des investigations que nous pouvons mener dans un cadre judiciaire, dans un cadre sous l'autorité du procureur de la République ou lors d'une commission rogatoire. Effectivement, il n'y a pas de surveillance a priori, ça c'est du domaine du renseignement. En revanche, nous avons effectivement une veille des réseaux sociaux, une veille de l'information, et nous y cherchons les infractions qui y sont menées, puisque le propre d'Internet, du numérique et des réseaux sociaux, c'est d'avoir une prolongation de la vie réelle sur la vie numérique. Donc effectivement, des infractions commises dans la vie réelle se retrouvent aussi sur la vie numérique, sur Internet. Et c'est à nous également de nous adapter à ces nouveaux moyens de consommation, à ces nouvelles habitudes de la population. Donc effectivement, de mener une police, des missions de police également sur le net.
Mais dites-moi, mon colonel, quand même, vous allez nous donner la liste des radars sur Twitter, vous allez nous la signaler, ou alors ça reste top secret?
Mais non, c'est sur Facebook parfois.
Ah. Alors, vous allez tweeter ou pas ?
Non, on ne le tweetera pas. En revanche, nous délivrerons des messages de sécurité routière, notamment lors des départs en vacances, notamment sur les trajets du quotidien, pour être très, très actuel et très direct, sur certains épisodes neigeux, certaines difficultés de circulation.
Ce sera gendarme futé, quoi. Guy, une dernière question.
Ce sera en partie gendarme futé. En revanche, pour revenir à Facebook, nous annonçons effectivement, en matière de prévention, certains tronçons et certains créneaux horaires où sont positionnés les contrôles vitesse.
Et est-ce qu'il y aura des vidéos des gendarmes en action ou des photos?
Alors oui, pour illustrer les différents messages que nous avons publiés sur Twitter, nous allons chercher le plus souvent possible à l'illustrer de gendarmes, d'images ou de vidéos de gendarmes en situation. On l'a fait sur le teasing, sur les premiers tweets d'annonce de l'ouverture de ce compte, avec une petite vidéo sur Vine, avec un portfolio également de gendarmes en action. Voilà, l'objectif est d'être aussi le plus illustrant pour le public.
Et puis de donner envie peut-être aux petits garçons et aux petites filles de devenir gendarmes à leur tour. Merci mon colonel Gwendal Durand, chef du bureau média au CIRPA Gendarmerie. Merci à vous Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité. Vous serez demain à Lille pour ce forum de la cybersécurité. Vous avez publié la cybersécurité aux presses universitaires de France. Et puis enfin Jean-Jacques Urvoas, monsieur le président de la commission des lois, député du Parti Socialiste. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur l'arrivée des gendarmes sur Twitter. En attendant le signalement des radars, donc merci à vous trois. À suivre, l'homme qui a transformé le buzz DSK en roman, à ses risques et périls, Régis Geoffrey, notre tête à clic. Mais tout de suite, Romain de Salles et son info qui claque.
Des clics et des claques
sur Europe 1.
Bonsoir Romain de Salles.
Salut David Abiker.
Alors, de quoi nous parlez-vous ce soir, cher Romain de Salles?
Ce soir, je m'en prends aux riches. Et je me fonde sur ce que révèle aujourd'hui l'ONG Oxfam en espérant interpeller les grands de ce monde qui vont se réunir à Davos à partir de mercredi.
Mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait, les riches?
Vous allez voir. Ce que dit Oxfam, les 85 individus les plus riches de la planète disposent à eux seuls d'autant d'argent que les 3,5 milliards d'humains les plus pauvres. Oui, David, 85 personnes au monde ont autant d'argent que 50% de la population de la planète.
Ça n'est pas l'égalité.
Pas exactement.
C'est totalement inégalitaire.
Selon Oxfam, non seulement ces inégalités sont hyper choquantes, mais elles s'aggravent sous l'effet, je cite, d'une prise de pouvoir des élites fortunées qui ont réussi à faire que les politiques mises en place partout dans le monde les avantagent systématiquement. Alors vous pensez peut-être que tout ça, ça n'est que de l'agitation gauche.
Ah, je vous vois déjà avec le couteau entre les dents, en bon communiste.
Exactement. Mais je vais vous citer un chiffre, David. Un chiffre qui fait trembler et que cite Oxfam. Depuis les années 70, le taux d'imposition des plus fortunés a baissé dans 29 des 30 pays les plus riches du monde. France incluse. Alors moi je dis, on arrête de se plaindre.
On arrête de se plaindre et on continue à voir se creuser ce qu'on appelle les inégalités. Et j'attends la révolution de Romain de Salles dans Time to Sign Off. Il l'a fait déjà. Time to Sign Off, c'est votre newsletter. Vous revenez demain, Romain, pour une autre info qui claque. À suivre, Régis Geoffrey qui relance l'affaire DSK et les buzz qui vont avec son roman La Ballade de Rikers Island.
Europe 1, 20h, 21h.
Des clics et des claques.
Guy Birenbaum, David Abiker.
Régis Geoffrey, romancier, prix Femina, prix Décembre, mais surtout l'auteur déjà contesté et poursuivi de la ballade de Rikers Island, où il fait renaître l'affaire DSK et tous ses buzz dans un roman ultra réaliste qui lui vaut déjà donc ses poursuites judiciaires. Mais avant toute chose, quelle trace Guy à Régis Geoffrey a-t-il laissé sur Internet?
Évidemment, depuis la semaine dernière et l'annonce des poursuites engagées par Dominique Strauss-Kahn contre vous, il y a des papiers partout sur le livre sur Internet. Est-ce que votre éditeur est content? Est-ce que le buzz est lancé? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des gens qui vous désinvitent des émissions dans lesquelles vous étiez prévu?
Ce serait plutôt la désinvitation massive.
C'est
mais
vrai.
Oui, mais j'en veux à personne parce que si vous voulez, la plainte qu'on nous promet touche aussi une radio nationale qui est France Inter pour ne pas la nommer. Donc là, je comprends qu'il y ait des médias qui puissent avoir peur d'être attaqués.
Vous attendiez pas à ça ?
Non. Je vous dis pourquoi. Pour une raison très très simple, c'est que le roman n'a rien de diffamatoire. Dans la mesure où cette, si on peut appeler ça une thèse, est déjà développée dans des documents qui n'ont pas du tout été attaqués et donc pas du tout condamnés. C'est-à-dire que, par ailleurs, il y a un gros problème qui se pose en France et qui est un problème, à mon avis, sinon grave, du moins extrêmement important, c'est qu'on interdit maintenant aux romanciers, aux artistes, de s'attaquer à la réalité. Parce que ce sont les romanciers qui sont attaqués, c'est-à-dire les essayistes, les documentalistes, je ne sais comment les appeler, ou les journalistes, sont beaucoup moins attaqués. Mais le fait de mettre dans une histoire qu'un romancier fasse son travail avec la réalité, travail qu'il a toujours fait, ça devient un scandale. C'est extrêmement curieux.
Alors ça c'est le point de vue sur ce que vous observez de la société française. Hein, mais DSK, Guy vient de le dire, il a déposé une plainte contre votre livre.
On l'attend.
Il a l'intention de le faire. Il estime, sans doute, il estimera que c'est de la diffamation. Est-ce que vous mettez à la place de Dominique Strauss-Kahn?
Oui, je me mets à la place de Dominique Strauss-Kahn et je me mets à la place. Je m'y suis si bien mis que je suis allé à l'hôtel où le Sofitel m'a refusé de louer la suite 2806, mais où j'ai été dans les tâches des suites et je me suis mis tout à fait à sa place. J'ai vu les femmes qui travaillaient dans les chambres et me mettant tout à fait à sa place, je ne me serais pas permis de poser ma main sur une de ces personnes, même sans intention sexuelle.
Mais là, vous êtes déjà dans le jugement. Là,
je ne suis pas dans le jugement. Je vous dis que je me suis mis à la place.
Mais c'est très difficile de se mettre à la place. Vous ne pouvez pas vous glisser dans la peau de Dominique Strauss-Kahn, mais rien que parce que vous louez une chambre au Sofitel de New York.
Mais c'est mon métier, je suis romancier. Bon, maintenant, il y a ce côté, effectivement, vous faites de la littérature, vous mettez à la place des gens. Mais si vous voulez, il y a un moment où ce qu'on appelle des faits divers, c'est à la hauteur d'un mythe. Ça dépasse beaucoup un fait divers. Un fait divers, c'est un chien écrasé, c'est ce genre de choses, un sac arraché. C'est pas ça dont on parle. On parle d'une histoire mondiale. Pourquoi elle est mondiale? Pas à cause de ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, mais parce que les protagonistes font que c'est mondial. C'est-à-dire que les protagonistes en font une tragédie. Quand, si vous voulez, la tragédie d'Anne Sinclair qui sort du tribunal, si ça avait été une femme inconnue, on la connaîtrait pas. on ne l'aurait pas vu. Et cette tragédie aurait été moins forte, parce qu'il y a le côté tragédie de cette femme qui est là, mais il y a ce côté tragédie, c'est que des milliards de fois, elle est reproduite. Ça, c'est une histoire moderne. Est-ce que on n'a pas le droit...
C'est aussi une tragédie pour elle.
Mais bien sûr, c'est ce que je dis, c'est là où se trame la tragédie. Mais la tragédie vient aussi de cette reproduction. C'est-à-dire que cette histoire est éminemment moderne, elle n'aurait pas pu se passer avant.
Mais justement, Régis Auffray, là, ce que vous dites est central pour des clics et des claques dans notre émission. L'affaire DSK, elle est cruciale en France en 2011 parce que c'est un buzz sur Internet qui démarre en plus en pleine nuit sur Twitter. C'est un buzz mondial, vous le dites, qui ne s'est plus arrêté depuis. Alors pourquoi finalement, vous, romancier, vous revenez là-dessus? Pourquoi revenir sur une affaire qui baigne déjà et qui baignait déjà dans la presse et dans les fantasmes du web?
Mais il faut bien que quelqu'un y revienne, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Il faut bien qu'un artiste s'en charge. Moi, si vous voulez, moi j'ai pris le temps du roman. J'ai pris le temps, ça fait 2 ou 3 ans, 2 ans et demi qu'elle a eu lieu. Moi, il me faut bien du
mai
temps
2011.
Pour écrire. C'est ça, voilà. J'ai pris le temps, je m'y suis précipité en tant qu'artiste qui prend quand même du temps. Parce que, je veux dire, à un moment, on arrive à quelque chose qui devient complètement mythique. C'est une œuvre d'art qui reste à écrire. Parce que ces personnages dépassent beaucoup ce qu'ils sont. Quand Charles Péguy disait Dreyfus n'est pas à la hauteur de l'affaire Dreyfus, ce qu'il voulait dire, c'est que Dreyfus, dans notre histoire, dépasse de beaucoup ce qu'était Dreyfus. Et là, tous les personnages dépassent ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il fallait bien, à un moment, écrire ce qui pouvait se passer dans la tête d'Anne Sinclair, de Dominique Strauss-Kahn, et même
vient.
De Nafissatou Diallo.
Régis Auffray, on y vient dans ce livre. Il y a deux histoires qui sont enchevêtrées. D'un côté, il y a l'affaire DSK, avec ces deux personnages principaux. Il y a aussi Anne Sinclair que je mets de ce côté-là. Et puis de l'autre, il y a un écrivain qui part sur les traces de Nafissatou Diallo, qui elle seule d'ailleurs est nommée. C'est-à-dire que dans le livre, vous ne nommez pas Anne Sinclair, vous ne nommez pas Dominique Strauss-Kahn, vous ne nommez pas leurs conseils et les gens qui sont autour d'eux. Mais la seule qui a le droit à au moins un prénom et qui est donc identifiable par son prénom, c'est Nafissatou Diallo. Alors, pourquoi ?
Parce que je le voulais, parce que c'était esthétiquement nécessaire, parce que si je l'avais pas cité, pour moi c'est elle l'affaire, c'est pas l'affaire DSK, c'est l'affaire Nafissatou.
Donc c'est donc il y a un point de vue, il y a une thèse.
Il n'y a pas vraiment une thèse au départ, parce que moi j'ai traversé, si vous voulez, j'ai suivi l'affaire à 5h du matin quand j'étais sur Twitter.
Sur Twitter.
Oui, donc là, j'ai suivi dès le départ et donc j'ai suivi tous les avatars de l'affaire. Je suis entré dans chacune des thèses, y compris la scène du complot.
Arrêtons-nous. Oui, vous dites qu'il était 5h du matin, j'ai suivi dès le départ. Vous vous souvenez de cette nuit-là? Vous faisiez quoi? Vous étiez où?
Moi, j'étais sur mon canapé, j'étais sur Twitter. Par ça, je faisais pas grand-chose. J'insomnisais, comme souvent. Et donc, l'affaire a commencé là. Et je veux dire, tout le monde l'a suivi. C'était une affaire qui nous était devenue personnelle, parce que c'était une sorte de personnage de notre famille qui se rapprochait de plus en plus. C'était des personnages qui se rapprochaient de nous. Et le seul personnage qui était inconnu, finalement, c'était Nafissatou. L'inconnu, c'était Nafissatou. La personne difficile à saisir et à imaginer, c'était Nafissatou, puisqu'elle est analphabète. Elle est très loin de nous. Finalement, DSK et Anne Sinclair, ce sont les nôtres. Et moi, au départ, j'avais beaucoup plus envie d'innocenter, de trouver qu'il y avait un complot contre DSK, parce qu'il m'était très proche. Et je me suis rendu compte que finalement, en disant qu'il y avait un complot sur...
Vous dites ça pour ménager la suite et dire que vous avez pris le parti de Nafissatou après avoir enquêté?
Point du tout.
Ou c'est vraiment sincère? Vous aviez de l'affection pour DSK, pour ce qu'il incarnait? Vous auriez voté pour lui?
Oui, j'aurais voté pour lui. Et puis, si vous voulez, comme on dit, une innocence est toujours plus sympathique qu'une culpabilité. Donc, il était plus proche de moi parce qu'il est plus de mon milieu. Il est plus de ma culture, etc. C'est évident. Et puis, simplement, à un moment, bon, quand cette illusion, pour moi, une illusion est tombée, je me suis aussi dit, finalement, une innocence est vraiment plus sympathique qu'une culpabilité. Mais si l'un est innocent, l'autre est coupable. Parce que quel crime plus important que de faire un faux témoignage pour envoyer quelqu'un 70 ans en prison.
Qui êtes poursuivi ou qui serez peut-être poursuivi par Dominique Strauss-Kahn parce que vous avez tenu des propos, j'imagine, comparables sur une autre radio, est-ce que vous mettez à la place de nos auditeurs d'Europe 1 qui se disent qu'est-ce que j'écoute? J'écoute quelqu'un qui parle de la réalité ou est-ce que j'écoute un romancier? C'est pas évident.
C'est quelqu'un qui prend la réalité pour la mettre dans un roman. C'est ce qu'on fait à peu près tous les écrivains. C'est l'année Proust, on en a beaucoup parlé. Proust, il faisait ça. Simplement, là, c'était pas un fait divers, mais je m'aperçois qu'en fait, quand c'est un fait divers, mais peut-être que si c'était un roman sur un phénomène sociologique, étant donné qu'il y a des humains, on aurait des plaintes aussi.
Mais vous en apercevez pas, ça c'est pas tout à fait vrai, puisqu'un de vos précédents ouvrages qui s'appelle Sévère et qui concerne l'assassinat du banquier Edouard Stern, on y retrouve aussi l'argent, on y retrouve le sexe, on y retrouve le pouvoir, on y a retrouvé aussi un procès, même si vous me disiez avant l'émission que ça s'est arrêté. Alors, vous avez été donc poursuivi, puis ça s'est arrêté pour ce livre, où vous écriviez, je suis allé relire l'intégralité du prélude de ce bouquin, les mots suivants. Je suis romancier, je mens comme un meurtrier, je ne respecte ni vivant ni mort, ni leur réputation, ni la morale. Est-ce que vous comprenez, Régis Zoffray, que vos personnages qui existent ne soient pas d'accord avec vous ?
Écoutez, ils n'ont pas à être d'accord. Ça fait partie de la fiction également. Je suis désolé, mais je peux pas écrire grand-chose d'autre. Est-ce que je mens comme un meurtrier ? D'abord, j'ai fait une faute, il faudra que je la modifie. C'est comme une meurtrière, mais c'était la mort. Oui, je sais.
Ça, c'est dans le livre. Je vais le relire.
Mais tout à fait. Et c'est bien normal que je subisse les conséquences de mes erreurs.
Est-ce que vous voulez lire une meurtrière ? Parce que bien évidemment, dans cette affaire-là,
c'est le banquier Stern. Il faut rappeler aux gens, mais il est tué par une femme qui lui tire dessus. Il est en combinaison de latex après une séance de sadomasochisme.
Mais c'est extrêmement curieux la question que vous me posez, parce que le romancier arrive après tout ce qui a été la douche médiatique. Et quand je dis la douche médiatique, il n'y a pas eu que de l'eau.
Ah oui.
On n'a rien dit. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu d'attaque, etc. Et le romancier qui arrive en dernier, en queue de peloton, c'est lui qui devrait finalement être condamné, s'être tué. Je pense que c'est la France. La France a un problème avec ses romanciers, avec ses artistes. Elle a un problème dans la loi. Elle a un problème dans la loi, puisque la jurisprudence dit que quand c'est dans un roman que quelqu'un se sent diffamé ou critiqué,
ou qu'il se reconnaît,
même si le roman est transposé dans un autre siècle, c'est beaucoup plus grave, parce que la fiction donne une impression de réalité. À partir du moment où on donne ce pouvoir de démiurge à un écrivain, comment voulez-vous que les choses se passent bien ?
Vous entendez la voix de Régis Zoffray, c'est le romancier qui a écrit. Il l'a écrit dans un roman. Il a écrit ce qui s'est passé dans la suite 2806 du Sofitel de New York. Il l'a imaginé, il l'a écrit, il en a l'intuition, puisqu'il écrit dans son dernier roman, déjà poursuivi par DSK.
Guy Berenbaum, David Abiker.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Retour dans Des clics et des claques sur Europe 1, où nous recevons Régis Zoffray, qui s'est largement inspiré, emparé de l'affaire Strauss-Kahn et de l'affaire du Sofitel de New York pour écrire son dernier roman, tellement inspiré d'ailleurs qu'il fait l'objet déjà d'un phénomène de buzz et surtout d'une plainte annoncée de l'avocat de DSK.
Alors il y a un truc qui est assez intéressant sur la quatrième de couverture. Il faut toujours lire les quatrièmes de couverture, parce que là on voit l'écrivain et l'éditeur qui nous font une petite blague, puisqu'il est écrit « Cette affaire s'est effacée des réseaux avec le temps ». Alors évidemment, ça c'est une farce, puisqu'elle ne s'est pas du tout effacée des réseaux, et rien ne s'efface sur Internet. Et puis là, il suffit en plus d'une étincelle comme celle qui est en train de se produire avec la sortie de votre livre pour relancer l'incendie. Elle s'effacera.
Je pense que Internet, là, c'est très jeune, mais ça s'effacera, parce que les informations qui ne sont plus vues s'effaceront. Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'effacera. Nos photos de famille vont s'effacer, parce qu'on va pas les imprimer. Le système va changer, ça j'en suis sûr. Non, ce que je voulais surtout dire, c'est que je prenais un recul dans le temps, en ayant l'impression que c'est une autre civilisation. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra peut-être lire mon livre pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un roman. C'est-à-dire quand les personnages seront effacés. Moi, j'ai l'impression d'avoir écrit un roman historique.
Bien sûr, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre 10 ans ?
Il aurait fallu attendre 50 ans, et j'ai peur à 108 ans d'être en mauvaise forme. Remarquez, ma mère va avoir 100 ans.
Moi, j'ai dit 10.
J'ai quelques chances.
C'est vous qui dites 50.
Oui, non, mais moi, dans 10 ans, il sera pas du tout effacé. Je veux dire que, là, il y a des moments où cette histoire, moi, telle que je la raconte, c'est une finitude, parce que c'est un roman. Alors que là, on est dans une infinitude, ça part dans tous les sens. Je pense que c'est un conte que je tire, un roman. Et quand on aura oublié ces personnages, si par hasard on retrouve dans des décombres un exemple, j'ai toujours cette impression des décombres, vous savez, les amphores qu'on trouve, on ne sait plus d'où elles sortent. Là, je pense que cette histoire, elle tiendra toute seule, même sans les protagonistes, puisque finalement, ce sont devenus des personnages, comme Louis XIII dans Alexandre Dumas, par exemple.
Bon, en tout cas, sur Twitter, il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. Garance, elle tweet, là, du buzz sur de la baise. Alors, il n'a quand même pas de bol, le Dominique Strauss-Kahn,
on
parce que
Europe 1,
l'an dernier...
Oui,
vous êtes dans des clics et des claques. Hein, c'est, bon. L'année dernière, il y a des livres qui sont sortis sur Dominique Strauss-Kahn, le livre de Marcella Yacoub qui racontait sa liaison avec un homme qu'elle ne nommait pas, mais tout le monde reconnaissait Dominique Strauss-Kahn, elle l'appelait un homme cochon, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Marc-Edouard Nabe aussi avait sorti un livre en son temps, alors là je ne vais pas donner le titre parce que vous voulez me parler des enfants qui écoutent Europe 1, je préfère le taire. On a le sentiment quand même que Dominique Strauss-Kahn, qui se relève à peine comme un boxeur KO sur le ring, au moment où il se relève, trois écrivains viennent lui donner le coup de pied de l'âne, un peu comme ça. Là. Il y a une forme de cruauté, là aussi, c'est un peu romanesque comme situation.
J'ajoute pas que lui, ses proches, ses mômes, etc.
Non, écoutez, alors déjà on va commencer, moi j'ai des enfants, vous avez des enfants, tout le monde a des enfants. Les hommes politiques ont des enfants, il y en a qu'un qui n'a pas des hommes politiques et qui les dit, c'est Moscovici. Donc attaquer Moscovici, pas Marine Le Pen, etc. Donc là-dessus, c'est une chose. Bon, moi j'en parle pour la première fois et j'en parle pour la dernière fois. Je ne vais pas écrire des séries de romans sur lui. Il se trouve qu'il est dans l'histoire, il se trouve que là vous citez trois romanciers, mais vous ne citez pas tous les journaux qui en parlent tous les jours et qui en ont parlé à l'infini. Il y a des... C'est aussi infini le nombre de lignes qu'il a pu avoir sur DSK que l'infini du désert. C'est-à-dire qu'on a même calculé qu'il y avait plus de matière sur Internet pour l'affaire DSK que lors de la première élection de Barack Obama. Et ça tombe sur les trois romanciers que vous citez qui sont perdus, c'est des grains de sable dans l'infini, dans la Voie Lactée,
etc.
C'est très peu par rapport à tout ce qui a été écrit par ailleurs. C'est de la fiction dont on a peur.
D'un autre côté, Régis Geoffrey, vous nous
dites... C'est de la fiction dont on a peur, vous dites.
Oui, vous dites, moi je fais du roman, le reste c'est de l'information. Donc il y a une vraie distinction entre les deux. Enfin bon, Guy.
Alors vous avez imaginé, page 244, et c'est assez extraordinaire, votre héros à l'Élysée, où il coule 5 années d'absolue liberté. Mais je voudrais que David lise à nos auditeurs ce petit passage.
Alors je lis, j'ouvre des guillemets, c'est du Régis Geoffrey, on est page 244. Il se délesterait des corvées sur son premier ministre. Il avait la chance de n'avoir aucun programme particulier. Il gérerait la pénurie, la dégringolade, la catastrophe. Pour régner impunément, sans souci de la stratégie et des intrigues, il avait décidé qu'il ne se représenterait pas au terme de son mandat. 5 années d'absolue liberté, les journées reliées entre elles par le pointillé des aventures, petite gorgée de félicité, instant d'extase. Le pouvoir était une fête. Même l'amertume du peuple berné était pour les plus pervers l'occasion de jouir du sentiment d'être injustement vilipendé par des ingrats qui permettent aux dominants de profiter de l'envers du vice.
Alors c'est incroyable, la réalité a dépassé votre fiction, et puis avec un autre président.
Ah oui, oui, mais là où ça a dépassé la fiction, c'est pas tellement le passage qu'on vient de lire, c'est plutôt le côté Anne Sinclair, parce que là on a aussi une martyre à un degré beaucoup moindre, mais quand même une humiliée, c'est Valérie Trier-Wenner, ça c'est sûr. Et là, il y a quand même une ressemblance avec cette affaire.
Alors justement, on y vient, hein. Vous êtes un usager de Twitter, vous nous avez dit tout à l'heure, Régis Geoffrey, que la fameuse nuit de l'affaire du
Sofitel, sur Twitter.
Vous étiez insomniaque à 5h du matin sur votre canapé. Que vous inspire l'affaire qui fait rire tout Internet et qui scandalise aussi certains Français, à part les trois personnages principaux, c'est-à-dire le président, l'actrice et la première dame, mais ça c'est l'affaire Closer de la semaine dernière. Ça vous inspire un vaudeville, un roman, vous en pensez quoi ?
Bah écoutez, moi j'en pense que ça a été très drôle, cette espèce d'appel à la vie privée, parce que quand on parle de la vie privée, c'est qu'il n'y en a pas, et qu'à la limite, il ne pouvait pas y en avoir.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes président de la République, vous êtes absolument traqué dès que vous êtes à l'extérieur, et vous avez une interdiction totale de vous conduire comme un adolescent. C'est tout, mais c'est très attendrissant. C'est très attendrissant d'aller avec un casque de moto. C'est très attendrissant d'être avec un service d'ordre très réduit. Mais je veux dire, la vie privée, elle est préservée. Si Monsieur Hollande ou Monsieur Obama est sur son canapé ou dans son lit matrimonial, on va pas l'embêter. Est-ce que notre vie privée est pas préservée d'une certaine façon? Je dirais oui, la vie privée de tout le monde. Simplement, il y a des excentricités qu'on n'a pas le droit de faire. C'est tout. Si vous allez faire l'amour devant Europe 1, ce sera très mal vu et vous pourrez dire c'est ma vie privée. Mais on vous dira oui, mais devant son lieu de travail, on évite de faire l'amour avec une inconnue, etc. C'est normal. Là, je pense que c'est tout. Et cette vie privée est très drôle parce qu'on appelle toujours à la vie privée. Par exemple, dans le cas des faits divers, dans le cas d'un fait divers, vous n'avez plus de vie privée parce que tout est déballé. Si vous êtes en prison, il n'y a plus d'intimité non plus. C'est là où quand il n'y en a plus, on dit il y a un droit à la vie privée. C'est bizarre.
Guy. Alors, on a compris que votre position, et qui n'est pas que la vôtre, c'est que le romancier a tous les droits, y compris celui de transformer en roman réaliste un fait d'actualité. Alors,
pas du tout.
Question, pensez-vous qu'un humoriste a ce droit, lui aussi, notamment de vie et de mort sur la réalité?
Non, je pense que moi, je réclame le même droit que les humoristes. J'ai fait la préface du premier livre de Nicolas Bedos, et c'est ce que je disais. Je disais que finalement, le romancier a moins de droits. Il a moins de droits, évidemment, que l'humoriste, mais il a moins de droits que l'auteur de documents. C'est ce que je vous disais au départ. Et ça, je trouve que c'est scandaleux, c'est français, ça n'existe nulle part ailleurs, et je trouve ça lamentable.
Quand on prend le cas de Dieudonné en l'espèce, vous trouvez que c'est injuste ce qui lui arrive?
Je pense aussi que quand on fait de trop grands sauts entre deux sujets et qu'on n'a pas une heure pour en parler, je pense que la question de Dieudonné, vous me l'épargnerez parce que je peux en parler, mais je vais prendre une demi-heure. On n'est pas dans le cadre d'une insulte raciste, là. On n'est pas dans le cas de diffamation. Je dis qu'on n'est pas dans le cas de diffamation parce que des livres ont été publiés où on dit la même chose ou même pire et qui ne sont pas attaqués. Donc j'appelle ça, on n'est pas dans le cas de diffamation et on n'est pas dans un cadre dieudonnesque. On peut en parler une autre fois. Donc je maintiens, je dis la législation française, la jurisprudence française est particulièrement dure par rapport aux écrivains. Et le minimum, ça serait qu'on ait le même droit que les journalistes et le même droit que les humoristes, ce qui n'est pas le cas.
La balade de Rikers Island, c'est paru au Seuil. C'est le dernier roman de Régis Geoffrey. Ça s'inspire du buzz mondial, d'une mythologie moderne, dit-il, qu'est l'affaire DSK et l'affaire du Sofitel. Il a beaucoup donné pendant cette demi-heure, Régis Geoffrey. C'était physique pour lui et il a beaucoup donné. Il mérite un cadeau, peut-être empoisonné de la part d'Agnès Léglise, qui vient d'entrer dans ce studio tout de suite.
Des clics et des claques
sur Europe 1.
Quels sont ces orgues, monsieur Abicaire?
Ces orgues rituels annoncent l'arrivée d'Agnès Léglise qui vous apporte, Régis Geoffrey, un cadeau, peut-être empoisonné ou peut-être du réconfort et un peu de baume au cœur. Ça dépendra. Bonsoir Agnès.
Bonsoir. Dira-t-on jamais assez à quel point Internet est l'outil culturel le plus formidable jamais inventé? Non, je ne fais pas allusion à ces déplorables erreurs de jeunesse que certains ici présents ont commis et qui hantent encore les profondeurs du réseau. La sextape.
Je vais vous faire un procès en diffamation.
On prend tous les procès.
Vous attaquez
la vidéo YouTube.
La vidéo YouTube. Non, je parle de ces témoignages magnifiques du passé, comme cette voix surgie de l'oubli qui sera mon cadeau ce soir. Votre livre est un hommage, voulu ou non, à une héroïne du féminisme, Madame Diallo la Courageuse, et mon cadeau sera la voix de la grande Virginia Woolf, la presque suffragette, un de vos modèles, me dit Internet, qui, quand elle parlait en 1937 des femmes en littérature, soulignait que les femmes se heurtent à des difficultés immatérielles terribles, l'indifférence du monde que Keats et Flaubert et d'autres hommes de génie ont trouvé dur à supporter était, lorsqu'il s'agissait de femmes, non pas de l'indifférence mais de l'hostilité. Le monde ne leur disait pas ce qu'il disait aux hommes. Écrivez si vous voulez, je m'en moque. Le monde leur disait avec un éclat de rire, écrire. Pourquoi écriviez-vous? Alors, on va écouter un instant la voix de, en 1937, de Virginia Woolf qui parle de l'art d'écrire.
Notre travail, c'est de voir ce que nous pouvons faire avec le bon vieil anglais tel qu'il est. Comment combiner les vieux mots en ordre nouveau afin de créer de la beauté, de leur faire dire la vérité? C'est la question.
C'est un beau cadeau sonore féministe.
Voilà, exactement. C'était mon idée pour vous soutenir.
C'est très émouvant et ça me rappelle qu'à ma connaissance, il n'y a pas la voix de Proust, alors que techniquement, on aurait pu l'avoir.
J'avais pensé à la voix d'Oscar Wilde. Alors, il y a un enregistrement très incertain, peut-être, donc, parce que balade de Rikers Island, balade de Reading, bien sûr. Mais on n'est pas sûr que ça soit vraiment la voix d'Oscar Wilde.
Oui, donc nous, on fait très attention. Donc voilà, Agnès ne passe que des vrais sons.
Agnès a prononcé ce mot de féminisme. Est-ce que vous y avez
avez songé. Très vite, le féminisme s'est invité au lendemain de cette nuit que vous avez passée sur votre canapé à observer Twitter et à glaner ici et là des informations sur l'affaire du Sofitel.
Ben, là, c'est une histoire de femme, alors peut-être une histoire féministe, qui m'a frappé aussi, et là, on n'est même pas féministe, c'est quand je suis allé dans le pays d'origine de Nafissa Toudialou, qui est d'ailleurs une ancienne colonie française, la Guinée-Conakry, c'est qu'on voit sur le bord de la route des filles de 12 ans enceintes de 5 mois, on voit les femmes affairées et les hommes qui foutent rien, et sans être féministe.
Merci à vous, Régis Geoffrey, pour ce verbe, et on sentait l'émotion qui vous submergeait en évoquant ce voyage en Guinée-Conakry. Je rappelle le titre de ce roman, La balade de Rikers Island, paru au Seuil. Merci Agnès Léglise, merci Guy. Demain, nous recevrons la blogueuse et auteure de bande dessinée Pénélope Bagieux. Allez, bonsoir à tous.